J'aimerais poursuivre sur Moïse, dont nous avons parlé il y a 15 jours. Et le titre de ce message, « Quand il ne se passe rien, il se passe quelque chose ». Nous connaissons tous des moments dans la vie où il semble qu'il ne se passe rien, les choses n'avancent pas, les choses semblent bloquées. Peut-être même que toutes les portes se sont fermées et on a l'impression de tourner en rond. Et c'est le cas de Moïse, dont nous lisons un extrait ici dans Exode chapitre 3, qui a quitté à un moment donné son Égypte natale et qui s'est retrouvé à l'âge de 40 ans dans la région de Madian. Et ça va durer 40 années. En fait, entre le chapitre 2 et le chapitre 3 où nous allons lire, il y a 40 ans qui se sont passés et rien de particulier ne s'est passé. Mais au chapitre 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne se consume point ? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais les douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Moïse donc a connu une première partie de sa vie. On sait que sa vie est divisée en trois parties. Première partie en Égypte, 40 ans. C'était une vie intense, une vie, on va dire, culturelle, puisqu'il y avait toute la science des Égyptiens. Une vie à la cour, donc dans le luxe, dans l'abondance. Une première partie de sa vie assez aisée, et puis la deuxième partie de sa vie, finalement l'Écriture n'en parle quasiment pas, c'est les 40 années où il va garder les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et c'est juste à la fin de ces 40 années que nous arrivons au chapitre 3. Donc ces 40 années, on pourrait se dire, mais quand même dans une vie, pour Moïse ça représente un tiers de sa vie, puisqu'il a encore vécu après 40 années à conduire le peuple d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, mais ça représente un tiers de sa vie. Et pour un tiers de sa vie, eh bien, il semble que pendant tout ce temps-là, rien de particulier, rien d'extraordinaire, de sensationnel ne s'est passé pendant cette période. C'est un travail assez monotone, celui de berger. Donc le matin, il allait sortir les brebis ou les agneaux, les moutons de son beau-père Jéthro, et puis le soir, eh bien, il allait les rentrer, et puis ça, il a fait ça pendant 40 ans. Alors j'ai calculé, ça fait 14 600 jours. 14 600 jours, le matin, vous sortez, vous attendez toute la journée parce qu'il n'y a rien à faire, et puis vous rentrez le soir, voilà. C'est un petit peu monotone quand même, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est la routine. Et il pouvait se dire, ben voilà, après tout ce que j'ai connu en Égypte, il avait connu les fastes, il avait connu, on peut dire, la culture, il y avait toutes sortes de choses à faire, enfin des activités, c'était intense. Et puis maintenant, c'est une vie vraiment un peu triste, un peu, il est seul, il peut se dire, ben voilà ma vie, finalement je serai toujours berger, et puis ça finira comme ça. Mais Dieu, je me rappelle de ceci, et c'était déjà mentionné dans les chapitres précédents, Dieu avait mis dans le cœur de Moïse quelque chose pour aider son peuple. Parce que la Bible dit, quand il est devenu grand, il se rendit vers ses frères. Il savait que c'était ses frères qui étaient esclaves, et il a voulu aider un de ses frères pour le délivrer des Égyptiens. Donc il y avait dans son cœur quelque chose pour aider son peuple. Mais ça avait été étouffé, ça avait été enfoui, ça avait été oublié, parce que maintenant il était loin de l'Égypte, parce que maintenant il avait une autre activité qui était très monotone, et tout cela voilà, semblait ainsi. Donc ces longues phases où il semble qu'il ne se passe rien, j'aimerais voir avec vous que néanmoins Dieu les utilise pour qu'il se passe quelque chose. Et en réalité, alors que pendant ces 40 ans, la Bible le souligne comme un verset qui passe, vous voyez, on passe du chapitre 2 au chapitre 3, il y a 40 ans d'un coup qui se sont passés, mais en réalité, il y a eu un travail en profondeur qui s'est fait dans l'âme, dans l'esprit de Moïse, de sorte quand il va ressortir 40 ans plus tard, ce n'est plus le même homme. Sauf que nous ne le voyons pas, ces choses-là, parce que ça se fait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, au verset 4, on voit que maintenant, il va pouvoir écouter Dieu lui parler. Verset 4, il est dit, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Parce qu'avant, ses oreilles étaient quand même assez fermées. Il n'était pas prompt à écouter la voix de Dieu. C'est vrai que nous entendons bien sûr les sons. Les animaux sont d'ailleurs plus développés que nous, notamment les chiens et les chats qui peuvent entendre même les ultrasons, donc deux fois plus de sons même que nous. Mais au-delà des ultrasons, il y a les sons de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore entendre le Seigneur nous parler? Alors j'ai trouvé un verset dans Ésaïe 50, verset 4, qu'il y a une petite intervention dans l'oreille dont nous avons besoin pour entendre Dieu. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. » Alors, il y a nécessité d'une intervention de Dieu qui va éveiller notre oreille, qui va la rendre sensible. Il est même dit qu'il a ouvert l'oreille. Ça veut dire que pour entendre les sons de Dieu, nous ne pouvons pas l'entendre avec notre oreille naturelle, que Moïse pouvait entendre tous les sons de la nature, les voix humaines. Mais pour entendre la voix de Dieu, eh bien, le Seigneur lui a ouvert l'oreille. Il y a un travail qui s'est fait en lui, il y a un processus nécessaire. Alors, c'est vrai pour nous. On est toujours à l'écoute des informations, de ce qui se passe dans le monde, les prévisions de la météorologie, les conseils des uns et des autres. Mais qui prendra le temps de laisser son oreille être transformée pour écouter d'autres sons, c'est-à-dire la pensée de Dieu, la parole de Dieu, sa pensée pour nous, son plan, ce qu'il veut nous dire? Mais ça, c'est plus difficile, parce que ça nécessite de se mettre à part, ça nécessite peut-être de changer son agenda, de mettre de côté certaines activités, de mettre des priorités dans notre vie. Et je remarque une chose qu'on a lue, peut-être intéressante à souligner, c'est que le premier mot que Dieu dit à Moïse, c'est qu'il l'appelle par son nom. Dieu dit Moïse, Moïse, parce que pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des personnes qu'il aime et des personnes importantes. Alors il lui dit Moïse. Ça nous parle de l'amour de Dieu pour nous, qui nous connaît par notre nom. Avant notre naissance, il savait déjà comment allions nous prénommer. Et une relation de proximité s'installe. Et j'ai remarqué le parallèle avec Jésus dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 10, au verset 3, il est dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Et qu'est-ce que fait le berger? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Jésus nous appelle par notre nom. Donc on voit un parallèle entre Dieu qui appelle Moïse par son nom, Jésus aussi nous connaît par notre nom et il nous aime parce que nous sommes les brebis qui lui appartiennent. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand les brebis entendent la voix du berger, donc il nous faut que notre oreille soit sensible, soit ouverte, eh bien, il y a la paix et on peut être conduit par le berger. Un autre point, c'est le verset 5, que Moïse a pu méditer pendant ses 40 années de désert. Il va apprendre ce qu'est la sainteté de Dieu. Au verset 5, il dit « N'approche pas d'ici, c'est Dieu qui parle à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ça veut dire que quand Dieu se tient quelque part, le lieu autour de Dieu devient une terre sainte. Donc, nous sommes sur une terre sainte parce que Dieu est présent. Et beaucoup de croyants ont été comme confrontés à la sainteté de Dieu. Par exemple, Ésaïe, qui un jour a eu une vision de Dieu dans le temple. Il est rentré dans le temple, il dit qu'il voyait les pans de la robe du Seigneur remplir le temple. Il y avait comme des séraphins qui volaient autour du trône de Dieu, qui avaient 6 ailes, et ces séraphins disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées ». La sainteté de Dieu est proclamée aussi dans le ciel. La Bible dit que les fondements se sont secoués, il y a eu des secousses, les fondements donc se sont ébranlés, il y a eu de la fumée dans le temple. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, lorsque la sainteté de Dieu est proclamée, et je crois que lorsque nous réalisons la sainteté nous-mêmes de Dieu, immédiatement, Ésaïe dit « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur ». Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que quand on réalise la sainteté de Dieu, on réalise notre péché par rapport à Dieu. Et ça, il a demandé pardon. Il dit, mais moi, je suis un homme qui a les lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures, c'est-à-dire je suis pécheur. J'habite au milieu des pécheurs. Mais Dieu a une solution. Et un séraphin va prendre un charbon qui était sur le feu. Et il va, avec une pincette, poser ce charbon sur les lèvres. Et ainsi, l'ange dit à Ésaïe, « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Eh bien, Dieu a une solution pour le péché, parce que nous ne sommes pas saints à la base. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Eh bien, à la croix, Jésus a versé son sang pour que nous puissions être rachetés, pardonnés, pour que notre péché soit expié. Ce n'est pas un charbon qui va être mis sur nos lèvres, mais c'est le sang de Christ qui va expier nos péchés, mais c'est la même chose. Parce que si le sang de Christ n'expie pas nos péchés, nous ne pouvons pas nous approcher de la sainteté de Dieu comme cela, car nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. Voilà un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui réalise la sainteté de Dieu. J'ai pris un exemple dans le Nouveau Testament, il s'agit de Pierre. Nous savons que Pierre était un pêcheur autour du lac de Génézareth, qu'il travaillait en famille. Et un jour, alors qu'il nettoyait ses filets, Jésus a utilisé une de ses barques pour enseigner la foule. Alors, il parlait des choses du royaume de Dieu. Et puis, à la fin de son discours, Jésus a lancé un défi à Pierre en lui disant « Ben, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Pierre lui répond « Mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. » Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de retourner. Nous avons déjà eu un premier échec. Nous n'allons pas recommencer, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de résultat. Mais sur la parole de Jésus, il dit « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Et comme ils obéissent à Jésus, et nous avons toujours raison d'obéir à Jésus, même si les indications naturelles nous disent « Ce n'est pas la peine », mais c'est Jésus qui avait raison, ils ont jeté tout simplement les filets pour obéir. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il y a une grande quantité de poissons, si grande qu'il a fallu d'autres barques pour aller les aider. Et ils ont ramené tout cela à terre. Et c'est là où Pierre réalise la sainteté de Jésus. Et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et là, encore une fois, quand il voit ce Jésus si saint, si parfait, qui accomplit des miracles, qui est envoyé de Dieu, eh bien lui, il réalise à l'opposé son péché, sa séparation avec Dieu, sa mauvaise mentalité, tout ce qui doit être changé en lui. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être changées, transformées. Mais Jésus ne le laisse pas ainsi. Il ne lui dit pas, c'est vrai Pierre, tu es un pécheur et tu ne t'en sortiras jamais, tu resteras toujours dans ton péché, non? Qu'est-ce que lui dit Jésus? Il lui dit, Jésus, tu étais un pécheur de poissons, mais je vais faire de toi un pécheur d'hommes. C'est-à-dire que Jésus a un plan pour notre vie, pour que nous puissions eh bien, être pardonnés, libérés du péché et entrer dans le service ou dans la vocation que Dieu a pour nous. Donc, voyez ces exemples, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous montrent quand même une ligne générale. C'est quand nous réalisons vraiment la sainteté de Dieu, on ne peut que constater notre péché et demander pardon à Dieu, mais que Dieu fait grâce, il nous tend la main et il nous donne une opportunité de nous relever, d'être pardonnés de nos péchés et de pouvoir le servir dans ses voies. La sainteté de Dieu qui met en lumière le péché, eh bien, je pense que ça nous parle aussi de la conviction de péché. La conviction de péché, c'est la première étape pour la conversion. Si on n'a pas réalisé qu'on est pécheur, on ne peut pas naître de nouveau ou se convertir ou devenir enfant de Dieu. Il faut d'abord réaliser que l'on est pécheur, que notre vie n'est pas en règle avec Dieu, que nous avons besoin de pardon, et à ce moment-là, ouvrir notre cœur à Dieu pour être sauvé. Alors c'est ça, réaliser la vraie nature qui habite en nous. Un troisième point, c'est au verset 7. C'est maintenant la compassion de Dieu qui est développée ici. Au verset 7, il est dit... J'ai vu, alors c'est Dieu qui parle, il parle à Moïse, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, ça fait 400 ans d'esclavage, et j'ai entendu les cris qu'ils ont poussés, lui font pousser les oppresseurs, car je connais les douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays, le bon pays que j'ai prévu, etc. » Donc Dieu n'est pas ce Dieu lointain qui ne s'intéresse pas à la situation, mais il a vu. Il a entendu, il est ému de compassion, il veut faire quelque chose pour son peuple et il a choisi Moïse, cet homme qui était pendant 40 ans mis à part. Et c'est maintenant lui qui va être l'envoyé de Dieu pour délivrer le peuple. Alors cette compassion, eh bien, nous la retrouvons dans la personne de Jésus. La compassion qui est en Dieu, lorsque Dieu dit « je vois la souffrance, j'entends les cris, je vois que mon peuple est dans l'esclavage, je vais faire quelque chose », eh bien, regardez Jésus dans les évangiles et vous voyez bien que c'est comme si c'est Dieu qui agit au travers de Jésus. On voit la compassion, on voit l'amour pour les foules, on voit son intérêt pour les gens qui sont dans la peine. Et par exemple, Jésus voyait les foules comme des brebis sans berger. Il était plein de compassion. Il voyait leurs besoins de paix. Où est-ce qu'on peut trouver la paix aujourd'hui, hein, la paix? Il y en a beaucoup qui... prennent des médicaments pour essayer d'avoir un petit peu de paix, essayer de dormir un petit peu, tellement l'agitation, tellement les angoisses sont présentes. Mais la paix, elle est auprès du Seigneur. La paix, Jésus nous la donne. Jésus est plein de compassion pour cela. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un récit pour exprimer la compassion, justement, de Jésus, d'un homme qui était à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'était un lieu où se trouvaient tous les malades, des paralytiques, des gens en fait de diverses maladies de peau. Cette agglomération de malades favorisait en fait la communication de certaines maladies. Mais ils se rassemblaient ici parce que de temps en temps, l'Évangile dit qu'il y a un ange qui descendait du ciel, qui venait agiter l'eau, et le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Et cet homme-là, il y avait un homme paralytique depuis 38 ans. Il n'avait aucune chance d'être le premier à se jeter dans l'eau, mais il attendait, dans son espoir, qu'un jour quelqu'un vienne l'aider. Personne ne faisait trop attention à lui, parce que quand vous êtes malade depuis longtemps, faites un petit peu, vous voyez, ça, la maladie, c'est comme si elle fait partie de votre vie. Les gens peut-être passaient par-dessus lui, ils ne le voyaient plus, il faisait partie du décor, il était devenu comme invisible. Mais j'ai remarqué que c'est vers le plus faible, c'est la personne la plus rejetée, c'est vers cet homme qui était mis de côté, personne ne s'intéressait à lui. Bien, c'est vers lui que Jésus va se pencher et parler. Ça veut dire que nous avons tous une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Quelquefois, on va penser, lui, voilà, c'est fini, il ne pourra rien faire. Mais Dieu s'intéresse à cette personne-là qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus peut-être de mobilité, qui n'a plus la facilité de se déplacer, qui est handicapé, qui est dans une situation extrêmement pénible. Mais je remarque que Jésus a vu sa peine et il s'approche de lui. Et c'est la seule personne à qui il s'adresse. Peut-être il y a 50, 60 personnes qui sont là, qui attendent la guérison. Mais Jésus s'adresse à cet homme. « Veux-tu être guéri ?» Et sa réaction est intéressante parce qu'on voit bien que dans son esprit, c'est bloqué. Il répond au Seigneur « Je n'ai personne pour m'amener dans la piscine lorsque l'ange vient. » Donc il est resté bloqué dans son esprit sur la guérison. « Il faut que quelqu'un me mette dans la piscine le jour où l'ange vient agiter l'eau. » Il n'a pas ouvert encore son esprit au fait que Dieu peut guérir n'importe qui, n'importe quand, simplement dans la foi, si nous lui faisons confiance. Donc il faut que Jésus lui ouvre l'esprit. Il est resté sur cette pensée « je n'ai personne ». Mes frères et sœurs, même s'il n'y a personne sur le plan humain, nous avons toujours quelqu'un avec nous, c'est Jésus, c'est Dieu, il est à nos côtés et il est fidèle. Alors Jésus est là et lui dit « écoute, lève-toi, prends ton lit et marche ». Et il va comprendre à ce moment-là que la guérison n'est pas comme il l'avait conçue dans son esprit. Des fois, on a des conceptions, vous savez, certains disent « oui, si je vais à Lourdes, alors je serai guéri, si je fais un pèlerinage à Jérusalem, si je vais dans tel endroit, ou si je touche tel objet, je serai guéri ». Ce sont des traditions humaines, un petit peu comme cet homme avait ancré dans son esprit. Mais Jésus l'a libéré de ses carcans pour qu'il comprenne que la guérison, c'est simplement par la foi. Et il l'a reçu par la foi et il a été guéri. La guérison provient de la parole de Dieu dans Psaume 107, verset 20. Il est dit « Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. » Dieu envoya sa parole. Et nous savons que la parole, c'est Jésus et que Jésus guérit. Jésus a guéri cet homme. Jésus peut guérir encore n'importe quelle maladie. Nous faut lui faire confiance. Il a son plan, il a son temps. Quatrième élément, c'est au verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Alors, maintenant que Dieu l'appelle à faire ce qu'il avait dans le cœur depuis tellement d'années, ça faisait des années qu'il avait essayé d'aider son peuple, eh bien maintenant, on voit que Dieu utilise les humbles et que Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse dans sa première partie de sa vie. Les 40 premières années, il était trop orgueilleux. Étienne, d'ailleurs, précise que Moïse avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça, c'est les 40 premières années. Il était un homme puissant en parole et en œuvre. Et donc, Moïse avait développé des capacités de leadership. Il avait des capacités d'orateur. Il pouvait s'adresser à une foule, en tout cas dans la première partie de sa vie. Il avait appris une sagesse humaine. Comment, par exemple, combattre? Il avait appris le combat, la guerre, l'art de la guerre et toutes ces choses. En fait, c'était la sagesse du monde. Et Jacques le reprend comme cela dans Jacques 3,15. « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » La sagesse terrestre, on peut dire la sagesse des Égyptiens, n'était pas celle d'en haut, elle était terrestre, charnelle, diabolique. Et avec cette sagesse des Égyptiens, ils ne pouvaient pas faire l'œuvre de Dieu. Donc il fallait qu'il en soit débarrassé. Alors, comment est-ce qu'il en a été débarrassé? Eh bien, tout simplement, les 40 années à garder les troupeaux de son beau-père Jéthro ont été comme un élément pour le libérer de la sagesse des Égyptiens. Là, il a pu commencer à ouvrir son esprit, Dieu a pu faire un travail en profondeur, et c'était une école de formation. Et il y a un verset toujours dans Jacques qui nous dit que si nous manquons de sagesse, Jacques 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et c'est ce que Moïse a dû faire. Il n'avait pas la sagesse de Dieu et il a dû demander à Dieu d'avoir cette sagesse d'en haut qui donne à tous simplement sans reproche et elle lui sera donnée. C'est là qu'il a appris finalement la sagesse de Dieu, à raisonner non pas selon la mode des Égyptiens, mais à raisonner selon la parole de Dieu. Il y a eu tout un travail nécessaire en profondeur. Et la méditation de la nature a été une source d'inspiration. J'ai remarqué d'ailleurs que Jésus nous invite à regarder la nature. Quand il dit, par exemple, aux disciples, qui se faisaient beaucoup d'inquiétudes, alors il dit « ne vous inquiétez pas », etc. Et puis après, il dit « mais regardez, par exemple, les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel, voyez comment Dieu les nourrit. Alors il nous invite à détacher nos yeux des contingences, des obstacles qui nous entourent pour regarder vers la nature. Regardez les oiseaux. Un peu plus loin, il leur dit, regardez les lys des champs. Ils ne sèment ni ne filent et pourtant Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est des choses que nous oublions parce que nous sommes plutôt dans le mode ville où nous concentrons plutôt sur les soucis, sur les difficultés et nous oublions la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire regarder les oiseaux, regarder les lys? Mais ça veut dire s'arrêter un peu des activités qu'on fait et prendre le temps de méditer sur les choses de Dieu, la création de Dieu, ce que Dieu fait, comment il agit. Et ça, peu de gens le font finalement. Parce que nous sommes dans une sorte de suractivité où on passe d'une activité à une autre sans prendre le temps de méditer. Mais il y a une chose qui est soulignée dans la parole, c'est que pour entendre Dieu, pour laisser Dieu travailler en nous, ça prend du temps. Ce n'est pas quelques secondes. Voilà, j'arrive, 2 minutes après, c'est bon, je peux lire mon texte et j'ai fini ma méditation. Ce n'est pas comme ça. Ça prendra du temps nécessairement de se détacher, déjà de faire l'effort de se détacher des soucis, des problèmes, de les déposer au Seigneur. Ensuite, de concentrer notre esprit sur les choses que Jésus nous indique, les bonnes choses de sa création, de sa parole. Bien, tout cela nécessite du temps. Et puis, prendre le temps. Il dit considérer. Considérer, ça veut dire y penser, être attentif, réfléchir. Eh bien, tout cela nécessitera nécessairement de se mettre un petit peu à part et de prendre du temps. Un cinquième élément, c'est au verset 13, c'est le nom de Dieu. Verset 13, toujours dans Exode 3, « Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, et s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Et c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Le nom de Dieu, c'est Je suis. Dieu, c'est l'éternel présent, Je suis. J'aime bien ce verset d'Apocalypse 1,4 qui reprend un peu ces trois temps. Alors, ça dépend des versions. La version, par exemple, Osterwald, je vous le lis dans la version Osterwald, où vous avez les trois temps de Dieu. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, par celui qui est, donc le présent, celui qui était, c'est le passé, et celui qui sera. Ce n'est pas tout à fait comme ça dans la version seconde, c'est celui qui vient, je crois. Mais dans la version Osterwald, c'est celui qui sera, c'est le futur. Et vous avez donc présent, passé, futur, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône. Donc c'est l'éternel Je suis. On peut dire que Dieu est le Je suis, hier, aujourd'hui, éternellement, passé, présent, futur. Et c'est très intéressant quand Dieu ici dit son nom, Je suis. Est-ce que vous savez combien de fois Jésus s'est présenté comme Je suis? Par exemple, Je suis le pain de vie, Je suis la lumière du monde, etc. Vous savez combien de fois? 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. 7 fois, Jésus a dit Je suis. Il a dit Je suis le pain de vie. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a donné le pain dans le désert. Et quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », les Juifs se rappelaient de la manne. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », le deuxième. Car Dieu est lumière et la source de la lumière. Jésus dit « Je suis la porte des brebis », c'est-à-dire c'est par là que l'on entre pour être sauvé. Et c'est pareil, c'est Dieu qui accorde le salut dans l'Ancien Testament. Jésus dit « Je suis le bon berger », le quatrième, et vous connaissez tous le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». On retrouve le parallèle avec Dieu. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » et la capacité de ressusciter les morts, on sait que c'est Dieu seul qui peut le faire. Sixièmement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et la vérité, on sait que c'est Dieu. Dieu est toujours vrai. Et puis Jésus dit « Je suis le cep » et on sait que Dieu, c'est le vigneron. Donc on voit que dans tous les « je suis » de Jésus, ça reprend le « je suis », le nom ici qu'on a lu. Quel est ton nom ? Celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. Et on voit le parallèle tout à fait remarquable entre Dieu l'Éternel et Jésus, « je suis », c'est le même Dieu. Alors ça n'a pas manqué de faire réagir les pharisiens parce qu'il y a 2 possibilités. Si Jésus affirme « je suis » comme Dieu dit « je suis », alors soit vraiment il est Dieu et il mérite l'adoration, c'est ce que nous croyons ce matin, nous l'avons fait, nous avons adoré Jésus, ou alors soit c'est un imposteur et il est blasphémateur. Et les pharisiens ont basculé du deuxième côté en pensant que Jésus était un imposteur, un blasphémateur, et c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté, crucifié. Mais voyez, il n'y a pas de neutralité devant Jésus. Soit vous allez reconnaître qu'il est Dieu et lui apporter l'adoration qui lui est due, soit vous allez dire, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Jésus ne peut pas être l'égal de Dieu, comme les pharisiens l'ont fait à l'époque. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez vous détacher de lui. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de troisième possibilité. C'est soit il est vraiment Dieu, on l'adore, soit il n'est pas Dieu, c'est un imposteur. Alors, Jésus dit ceci dans Matthieu 10 pour vous montrer que son message ne laisse pas de neutralité. C'est un message clivant qui va séparer d'un côté ceux qui croient, de l'autre côté ceux qui le rejettent. Et Jésus le dit lui-même dans Matthieu 10, il dit « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. » Alors si on comprend bien ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'impact de l'évangile dans une famille va créer des divisions inévitablement. Pourquoi ? Parce que certains vont accepter Christ et vont reconnaître Jésus comme Dieu et vont l'adorer, et d'autres vont le rejeter dans la même famille. Et ça va créer, il dit Jésus, ça va créer une division. Et c'est pour ça que ce message, il est clivant. Soit on est pour, soit on est contre. Mais on ne peut pas être neutre. Et voilà. Et on sait que, bien sûr, on aimerait que toute la famille soit sauvée, mais Jésus l'annonce déjà que bien, tout le monde n'acceptera pas sa parole. Un sixième point, c'est au chapitre 4 et au verset 1 à 9, où Dieu va se révéler ici comme le Dieu du miracle. Puisque Moïse va commencer à apporter des objections, Dieu lui dit « c'est toi qui vas aller libérer mon peuple ». Et Moïse soulève l'objection en disant « mais ils ne m'écouteront point, ils ne me croiront point ». Alors, que fait Dieu ? Il lui dit « prends le bâton que tu as à la main, jette-le par terre, et le bâton se transforme en serpent ». Ensuite, Dieu dit à Moïse « prends le serpent par la queue ». Moi, j'aime bien qu'il ait dit « prends par la queue » plutôt que « prends le serpent par la tête ». Merci Seigneur. Mais déjà, prendre le serpent par la queue, il fallait quand même un pas de foi. Je ne sais pas si on aurait été beaucoup à le faire ce matin. Même moi, le premier, Dieu me dit « prends le serpent par la queue ». Je pense que j'aurais attendu un bon moment en regardant le serpent, peut-être qu'il ne bouge plus. J'aurais essayé de l'assommer avec un bâton, quelque chose. Mais approcher ma main d'un serpent, déjà, il faut le faire. Mais il l'a fait. Et même la Bible dit qu'il a eu peur. La Bible dit qu'il fuyait devant lui, au verset 3. Il fuyait devant le serpent. Vous voyez, c'était un vrai serpent. Il a pris, au moment où il touche la queue du serpent, le serpent redevient un bâton solide. Miracle extraordinaire. Donc, il réalise que Dieu est le Dieu du miracle. Et ce n'est pas fini. Dieu lui dit, mets ta main est saine, mets-la dans ton sein et ressors-la. Elle était couverte de lèpre. Remets-la dans ton sein. Il la remet, il la ressort, elle était pure. Et il voit maintenant que Dieu a la capacité de guérir les maladies. Il voit que Dieu a la capacité donc de faire des miracles sur la nature, les animaux, ou transformer les choses, hein, comme Jésus a transformé de l'eau en vin, par exemple. C'est le miracle sur la nature, c'est pas une guérison typiquement, mais aussi que Dieu a une action sur le corps pour soit créer du mal ou ôter du mal. Et il voit que Dieu est tout puissant. À ce moment-là, il réalise la puissance de guérison de Dieu. Vous savez, des fois, on sort de chez le médecin, le rapport médical est mauvais, les médecins sont unanimes, les bilans sont pas bons. Il n'y a pas d'espoir. Mais nous savons, nous, que Dieu reste au contrôle parce qu'il est le divin médecin et que derrière les savants, tous ces gens qui étudient toutes les maladies, eh bien, il y a un autre médecin qui s'appelle Dieu. Et lui, il vient avec son pronostic. Vous savez, Jésus a dit, alors que tout était perdu, c'était même pour Lazare, il était mort, il n'y avait plus d'espoir, il était mort. Mais Jésus lui dit un autre diagnostic, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous connaissez un médecin qui peut dire ça ou ? Il n'y a aucun médecin qui peut dire une chose pareille parce que ce n'est pas du domaine médical, c'est du domaine spirituel de la foi. Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà son pronostic, voilà lui son analyse de la situation et il va prier et Lazare va ressusciter des morts. Donc on voit que Dieu est le Dieu du miracle et qu'il est toujours au contrôle. Et il est toujours Yahvé, Rapha, l'Éternel, qui guérit. Un dernier point, c'est le verset 10 et 11, chapitre 4. C'est que Dieu n'a pas besoin de nos capacités. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même que depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et vous croyez que pour Dieu c'est un problème ça ? Pas du tout. Verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd en voyant, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire, etc. » Donc, les capacités de Moïse, en fait, Dieu n'en a pas vraiment besoin pour faire l'œuvre qu'il va lui confier. Beaucoup supposent d'ailleurs que Moïse est devenu bègue pendant son séjour au désert et que nécessairement c'était un handicap pour prendre la parole en public. Si vous êtes bègue, bien sûr, ça va vous handicaper. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, je me rappelle très bien, ça m'a marqué toute ma vie. Dans cette colonie, il y avait un cuisinier et il était bègue. Il était bègue, il n'arrivait pas à parler avec fluidité, c'était haché, tout le temps haché. Et nous, évidemment, on se moquait avec les adolescents. On essayait de le faire parler et puis on s'amusait, on se moquait de lui. Et arrive le culte et là, il a commencé à prier. Alors tous, on se regardait, on rigolait. Qu'est-ce qu'on va rigoler ? Il va essayer de prier, il ne va pas y arriver. Eh bien, quand il priait, c'était fluide. Il était libéré de ce handicap et il arrivait à prier. Et dès que le culte était fini, eh bien, il retrouvait son bégaiement. Eh bien, c'est un vrai miracle, ça. C'est quand même extraordinaire. Et nous, ça nous a parlé parce qu'on était un peu moqueurs. On voulait le dénigrer. Mais Dieu nous a montré quand même qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il pouvait le libérer de cet handicap. Alors, quand Moïse n'était pas bègue, la Bible dit qu'il était puissant en parole, c'est les 40 premières années de sa vie, eh bien, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Mais quand il est devenu incapable de s'exprimer, c'est là que Dieu a pu l'utiliser. Et donc, ces 40 années ont été un peu, pour Moïse, une descente. Lui qui était orgueilleux, il a dû être humilié, mais c'est là, dans son humilité, que Dieu l'a relevé. Comme dit la parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. Ah, je voulais terminer avec une image. Est-ce que tu peux la diffuser ? C'est cet homme qui s'appelle Nick Vujicic, qui est né sans bras et sans jambes. Vous voyez ? Comme handicap, je crois que c'est difficile de faire pire quand même. Pas de bras, pas de jambes. On pourrait dire, là, c'est mal parti pour lui. Qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie, cet homme ? D'ailleurs, à sa naissance, le père était effondré. Quand il a vu l'enfant qui commençait à sortir, il n'y avait pas de bras. Il n'y avait pas de bras, il est sorti, il était en pleurs. Mais quand le médecin est venu lui annoncer, parce qu'il dit, mais médecin, mon fils n'a pas, il lui manque un bras. Il lui dit, mais votre fils, il n'a ni bras ni jambes. Alors là, il était effondré. C'était des chrétiens, il est né dans une famille chrétienne. Et ça a été une épreuve extraordinaire pour l'Église et pour cette famille. Et sa mère était tellement choquée aussi d'avoir un enfant pareil qu'elle a eu du mal à l'accepter, bien sûr. Elle n'arrivait pas ni à le porter, ni à l'allaiter les premiers mois. Et puis lui-même, quand il a grandi, alors après, bon, les choses se sont un petit peu arrangées, mais imaginez, vous êtes sans bras, sans jambes, et qu'est-ce que, dans votre esprit, en plus, il entendait parler de Dieu, de ces choses-là. Et il ne comprenait pas, et il demandait à Dieu, mais pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes ? Quel handicap ! Incroyable. Et à l'âge de 8 ans, il a même tenté de se suicider tellement il en avait assez de la vie. Voyez, 8 ans. Alors qu'à cet âge-là, on pense à jouer, on pense à l'avenir. Et lui, il pensait à mourir. Et puis, à l'âge de 15... Alors, il n'a pas été jusqu'au bout. Hein. Il voulait se noyer, en fait, il voulait se noyer dans sa baignoire. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il a pensé à ses parents. Et c'est à l'âge de 15 ans qu'il a donné sa vie avec ce verset de Jean 9, 3. Qui dit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Un homme aveugle de naissance, encore une personne handicapée, « mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ça lui a parlé, ça l'a touché. Et il l'a pris pour lui, il s'est converti, mais une fois converti, vous n'avez toujours pas de bras, pas de jambes, mais qu'est-ce que vous allez faire dans la vie ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez vous en sortir ? Eh bien, Dieu a choisi ce faible instrument, un petit peu comme Dieu a choisi Moïse dans sa faiblesse, Et il a fait de lui un instrument pour porter la parole de Dieu parmi les nations. Puisque cet homme, dans sa limite extrême, hein, il doit être porté, il est sur un petit fauteuil, on le pousse. Il est allé dans plus de 24 pays porter la parole de Dieu. Il a atteint plus de 3 millions de personnes. Et plus de 200 000 personnes se sont tournées vers le Seigneur au travers de ses messages. Alors, la plupart de nous, on n'est pas utilisés d'une manière aussi extraordinaire et puissante. Mais lui, il n'a ni bras ni jambes. Et Dieu fait une œuvre extraordinaire avec cet homme, qui est d'ailleurs venu en France au mois de juillet. Il y avait au Havre, il y a eu 4 jours d'évangélisation avec Bouge ta France, dans un grand stade, ils ont loué un stade de football. Il y avait plus de 10 000 personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu. Et c'était un des intervenants, c'était Nick, qui a porté la parole de Dieu dans notre pays. Donc on peut dire, mais Dieu est extraordinaire. Comment il peut utiliser les choses faibles de ce monde pour des choses glorieuses de son royaume? Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Alors, Moïse n'a pas demandé à passer ses 40 ans dans le désert, et je suis sûr que tous ont réfléchi un petit peu, on se dit, mais quelle perte de temps dans une vie. 40 ans à ne rien faire. 40 ans où il semble qu'il ne se passe rien. Eh bien, détrompons-nous, frères et sœurs. Pendant ces 40 années, il s'est passé des choses dans la vie de Moïse. Ça ne se reflète qu'après. On ne s'en rend pas compte pendant, mais ce n'est pas du temps perdu. Même si en apparence, il ne s'est rien passé, en réalité, Moïse, le vieux Moïse est mort, l'ancien Moïse est mort, et il y a un nouveau Moïse qui est né, et c'est ce nouveau Moïse-là qui va aller sortir le peuple d'Israël. En réalité, c'est un changement profond. Et Moïse a été préparé pendant 40 années, en fait, aux 40 années suivantes où il va conduire le peuple depuis l'Égypte jusque vers Canaan. Il faut comprendre comment Dieu agit, parce que si on ne comprend pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On va être très frustré, parce qu'on se dit, mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas? Mais parce qu'il y a des temps où Dieu utilise justement ces temps où il ne se passe rien, mais en réalité il se passe quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne discerne pas. Et si Moïse était en décalage, s'il n'accepte pas le temps de Dieu, si lui veut, d'abord il avait voulu devancer le temps une première fois en tuant l'Égyptien, s'il avait voulu de lui-même au bout de 20 ans dire « maintenant j'ai assez attendu, j'y vais moi-même », eh bien c'était pas encore le temps. Donc il faut comprendre comment Dieu fonctionne et nous aligner sur le timing de Dieu. Et quand Dieu dit « c'est bon », eh bien c'est là qu'on peut y aller. Si Moïse n'avait pas réagi comme ça, il aurait pu devenir amer et dire « mais je perds mon temps. À quoi ça sert de servir Dieu? Je ne fais rien. Dieu m'a oublié. Je suis de côté. » En réalité, non. C'est une étape. C'est un processus. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter. Moïse ne le sait pas encore, mais il est préparé à ce que Dieu avait déjà placé dans son cœur, c'est de libérer le peuple. On va prier un instant. Merci encore pour ta grâce. Nous savons que tu es là ce matin, que tu parles encore à nos cœurs, que tu utilises aussi ces temps, Seigneur, ces le temps où il semble qu'il ne se passe rien, mais nous savons que toi tu agis, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, que toi tu utilises même ces moments pour former en nous quelque chose, pour, Seigneur, nous délivrer de l'orgueil, nous délivrer de toutes sortes de passions vaines, toutes sortes de pensées mauvaises, et que tu étends ta main, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Donne à chacun ta paix, Seigneur, et garde-nous tout le reste de cette journée dans ta sainte présence, au nom de Jésus. Amen.